Star Berlins.
It's Morning Edition from NPR News.
Let me
hear some people how
she eats. Radio Rosalie Paris.
Produce get in the radio.
France Inter, le 18-20.
Les championnats du monde d'athlétisme à Doha se sont terminés hier sur une note très amère. Beaucoup de chaleur, pas beaucoup d'enthousiasme, mais il y a toutes les chances pour que le Qatar poursuive ce chemin sportif qui est le sien. Et on y viendra avec nos invités. Le bruit du monde est en Autriche qui interroge son identité après les élections de la semaine dernière. Le bruit du monde, la suite, c'est Amélie Perrier qui fêtera avec nous l'anniversaire de Vladimir Poutine, 18h50. Le monde selon Trump, saison 3, et Grégory Phillips qui essaye de se mettre dans la tête d'un président américain très très agacé par son affaire d'impeachment. Et puis 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four qui trouve que le feu vert des Américains aux Turcs pour attaquer son allié kurde, c'est pas moral, mais c'est logique. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Pierre Rondeau.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à la Sport Management School, spécialiste de l'économie du sport. Vous êtes aussi co-directeur de l'Observatoire Sport et Société de la Fondation Jean Jaurès. Et bonjour à vous Christian Chesneau.
Bonsoir.
Aussi spécialiste du Qatar. Vous avez écrit notamment Qatar Papers avec votre acolyte Georges Malbruno. Comment l'Émirat finance l'islam de France et d'Europe? Et c'était chez Michel Lafon. Pierre Rondeau, pardon, ces championnats du monde qui prennent fin sont une catastrophe. Ce sont les mots de Kevin Mayer. J'ai presque envie de dire comme prévu, quand même non, on n'a pas découvert qu'il faisait très beau et qu'on n'aimait pas l'athlétisme au Qatar.
Une évidence, il suffit simplement d'aller sur le site du ministère du tourisme qatari pour constater qu'au mois de septembre, les températures moyennes c'est 39 degrés. 39 degrés. Je précise que la FIFA, donc là on parle d'athlétisme, mais la FIFA pour le football, admet qu'au-delà de 32 degrés, la question se pose de jouer une rencontre et à partir de 32 degrés, on commence à mettre en place des pauses pour des pauses de réhydratation. Mm-hmm. Donc 39 degrés, c'était une évidence. On nous parlait des stades climatisés qui sont d'ailleurs une aberration écologique.
Ça, on y reviendra, mais en effet.
Du coût extrêmement important, extrêmement élevé, des investissements consentis pour les infrastructures sportives et extrasportives au Qatar, pour la Coupe du Monde, mais on a aussi les stades ou le stade pour les championnats du monde d'athlétisme. On parle d'investissements entre 100 et 200 milliards de dollars. Donc on a un manque de respect pour les sportifs, pour leur intégrité physique et mentale, un manque de respect pour l'environnement, pour les travailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, les travailleurs sur les chantiers du Mondial. Donc à tous les niveaux, c'était une aberration, mais une aberration qui était connue d'avance. Kevin Mayer, un mois avant la compétition, parlait déjà d'une aberration. Il le savait et tout ce qu'il a dit s'est avéré payant.
Alors, il le savait, il dit aussi, et pour le coup c'est assez honnête, il dit aussi, je le savais, mais enfin sinon ben, je ne serais pas venu, il fallait que je boycotte et je ne l'ai pas fait.
Il faut bien préciser.
Et comme aucun ne le fait dans ces cas-là, pour un tas de raisons qui sont sûrement des bonnes raisons sportives d'ailleurs, de vous à moi. Hein.
Mais non, mais justement, parce qu'on parle des championnats du monde d'athlétisme, c'est pas comme le football, on a les sélections nationales et les clubs, où les clubs sont suffisamment bien dotés pour qu'un joueur puisse évoluer uniquement en club avec son salaire, sans participer à un mondial. Pour les sportifs de haut niveau d'athlétisme, le 100 mètres, le 200 mètres ou le décathlon, c'était une obligation pour leurs sponsors et pour leur rémunération de participer aux mondiaux. Qu'ils aient eu lieu à Doha ou ailleurs, ils devaient y participer. Il y a une contrainte aussi économique pour ces sportifs.
Alors quand même, est-ce qu'on en tire une leçon au moins, Pierre Rondon? On disait que les championnats du monde devaient être une espèce de galop d'essai avant la Coupe du Monde de foot. Est-ce qu'on en tire une leçon ou est-ce qu'on dit, ah bah dis donc, pour la Coupe du Monde, ça va être une autre paire de manches?
Il y a deux points critiques qui ont été relevés par les observateurs pendant les championnats du monde. C'était à la fois la température. À cela, les organisateurs qataris répondent que le mondial 2022...
Dans les stades,
2022,
c'est facile?
Oui. Au-delà de
l'aberration environnementale,
les organisateurs du Mondial 2022 répondent que la Coupe du Monde aura lieu en novembre-décembre. En novembre-décembre, les températures oscillent entre 25 et 31 degrés, donc c'est respirable. Et concernant les stades vides, en tout cas le stade vide à Doha, ils répondent que novembre-décembre, ça sera les vacances scolaires. Donc les enfants qataris pourront assister au match.
Il y a un peu plus d'engouement pour le foot quand même.
Et il y a aussi, bref, on parle quand même d'un pays, si je ne me trompe pas, un pays de 2,7 millions d'habitants.
Oui. Et 300 000 nationaux.
Voilà, et 300 000 nationaux. Oui. Donc pour remplir des stades, 8 stades de foot de plus de 50 000 places pour un mondial, un événement comparable, enfin le mondial, c'est le deuxième événement sportif le plus regardé au monde.
Et un territoire, une superficie de territoire qui n'est pas censé supporter autant de supporters, si je puis dire.
Grande comme l'île de France.
Oui, c'est grand comme la Corse, mais c'est vrai que ça va être une Coupe du Monde de poche, j'allais dire, c'est-à-dire dans 50 km carrés avec 8 stades. Je voulais quand même dire aussi qu'il y a quand même une grande hypocrisie, que ce soit la FIFA ou SIO, c'est-à-dire que le Qatar, évidemment, propose ses candidatures, mais elles sont acceptées. Alors, il y a aussi des soupçons de corruption, mais la FIFA ou le CIO sait très bien qu'au mois d'août, au mois de septembre, il fait 40 degrés. Donc, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. L'année prochaine, à Tokyo, il fera très chaud. Hein. Donc, c'est vrai que le Qatar pousse ses pions.
Mais pas si chaud.
Il fera très chaud. En 99, à Séville, on me racontait qu'il avait fait extrêmement chaud. C'est l'Espagne. On n'a pas dit à l'Espagne, il fait chaud. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour le Qatar, c'est une projection de puissance, de pouvoir. Il faut exister, évidemment. On sort le carnet de chèques à tout prix. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre, hein, d'avoir ces championnats du monde d'athlétisme avec des tribunes vides. Alors, c'est vrai qu'aussi, les Qatariens, louent des Éthiopiens, des Africains. Ils donnent un sandwich et une bouteille de coca, puis un drapeau.
Assez famélique et dans les tribunes.
Et puis, pour la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y aura 8 stades. Il y aura des gens qui vont venir de l'étranger, des supporters, ils seront sur des bateaux, dans les hôtels. Bon, ils vont remplir les salles, mais c'est vrai que ça sera une Coupe du Monde très particulière.
Mais Christian, on a bien compris qu'évidemment, qu'on fait ce qu'on appelle le soft power derrière, qu'on essaye de faire de la diplomatie douce à travers le sport. C'est une manière de se donner une nouvelle notoriété, c'est aussi une manière de s'acheter une virginité. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça sert à ça pour le Qatar? Et est-ce que quand même, on se prend pas un peu les pieds dans le tapis quand on voit des images comme celles qu'on a vues au championnat du monde.
C'est sûr que là, c'est une mauvaise publicité pour le Qatar. Hein, c'est clair, hein, quand le stade est quasiment vide. Mais en même temps, pour eux, comme vous l'avez dit, c'est une répétition générale pour la Coupe du Monde, qui est quand même le Graal, le Saint Graal dans le sport. Mais c'est quand même, malgré tout, une manière d'exister en termes de télévision, de droits télévisés. Et le Qatar existe. Et puis, ça permet de nouer des partenariats. Et encore une fois, pour le Qatar, le sport est une industrie. C'est pas un passe-temps, c'est pas une danseuse. C'est-à-dire, l'émir Tamim adore le sport, ça vient de la famille royale, qui a décidé cette Coupe du Monde, qui a décidé ces championnats du monde. Donc, on met le paquet, on a parlé de 100 à 200 milliards sur une dizaine d'années, hein. Ils ont fait venir 1 million de travailleurs étrangers qui construisent les stades, les routes, etc. Donc, pour eux, c'est une façon de construire le pays, d'exister, et puis aussi de s'émanciper de l'Arabie Saoudite et de faire, concurrence aux Émirats voyens à Dubaï.
En termes de diplomatie, effectivement, il y a la concurrence avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite. Il y a tout ça. Maintenant aussi, est-ce que c'est une manière de masquer, de gommer finalement ce que vous décrivez d'ailleurs à longueur de page dans votre livre? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à gommer derrière le fonctionnement du Qatar aujourd'hui? Est-ce que ça suffit, ce genre de manifestation, pour le faire? Qui est dupe, au fond, Christian Chesneau?
Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de complicité. C'est-à-dire que les États européens, occidentaux, c'est-à-dire qu'on vend des Rafales, on vend des armes, c'est un gros client en armement. On a vendu quand même 36 Rafales au Qatar, les Américains, les Anglais, les Italiens vendent beaucoup, donc il y a beaucoup d'argent, encore une fois, le CIO, la FIFA. Il faut rappeler qu'au moment où on décide l'attribution de ces mondiaux, l'athlétisme mondial, et la fédération est quasiment en faillite. Et c'est l'argent du Qatar qui va donner une bouffée d'oxygène à la Fédération internationale d'athlétisme. Donc, il y a aussi, encore une fois, il faut être deux pour danser le tango. Et donc, l'argent, il vient, et donc, ça sert des intérêts aussi.
Allez-y, Pierre Rondeau.
Non, mais là où c'est assez paradoxal, c'est qu'on condamne et on accuse le Qatar sans citer la FIFA, le CIO, même l'UEFA. On rappelle aussi, les soupçons de corruption pour l'attribution.
Enfin, il y a des enquêtes en cours, hein. Enfin,
il y a des enquêtes en cours, mais voilà,
France et en Suisse.
En France, en Suisse, même pour la justice américaine a commencé à regarder ce qui s'est passé pour l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Donc effectivement, on peut pas juste condamner le Qatar. L'argument principal de ceux qui défendent Qatar 2022, c'est de dire que on savait et on sait que la situation géopolitique, diplomatique, les droits de l'homme, les droits des travailleurs ne sont pas respectés, mais la visibilité du Mondial permettra à une incitation au changement. Le principal argument de Michel Platini, c'est
ce qu'on avait
dire...
dit pour la Chine aussi. Oui, c'est pas passé grand chose de ce point de vue-là.
Donc c'est très 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 hypocrite.
Il y va du sport comme du reste, comme de toutes sortes d'instances finalement. Mais est-ce que les Qataris influencent ou est-ce qu'ils contrôlent ces grandes instances du sport, ces grandes autorités du sport au fond, au bout du compte?
Il y a une enquête en cours. Il y a des soupçons de corruption. Il y a des soupçons justement de pot de vin ou en tout cas de. On sait qu'il y a eu par exemple, ça a été les révélations des Football Leaks, un dîner entre à la fois l'émir du Qatar, Michel Platini et Nicolas Sarkozy, 3 jours avant l'attribution du Mondial 2022. Voilà, on sait qu'il se passe des choses. Maintenant, tant que l'enquête est en cours, on ne peut pas conclure sur un véritable pouvoir ou une véritable action
et
du Qatar.
Et est-ce que quand même ça irrite le Qatar, la mauvaise publicité, ces stades vides, etc. Enfin voilà, est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir raté leur championnat et d'avoir du coup une pression supplémentaire pour la Coupe du Monde? Parce qu'on sait qu'ils ne vont pas s'arrêter là, non? Il y a des des Jeux Olympiques en vue après ceux de 2036. Il paraît que ceux de 36 sont pour Brisbane. Et ce qui se passera après,
mais il y a aussi
le
championnat du monde de handball, le championnat du monde de... Il y a eu déjà, voilà, on parle même d'accueillir une étape du Paris-Dakar. Donc il y a beaucoup d'événements sportifs qui devraient avoir lieu au Qatar dans les prochaines années.
Je crois que c'était l'Arabie Saoudite qui avait récupéré.
Qui l'a eu, mais elle demande pour les prochains.
D'accord, elle demande pour les prochains. Ou pour peut-être une étape, allez savoir. Ils sont irrités, donc, les Qataris ou pas?
Bah, ils sont, oui, c'est quand même une mauvaise publicité. Encore une fois, des enquêtes pour corruption. Mais en même temps, ils se projettent. Encore une fois, l'événement mondial, ça sera quand même la Coupe du Monde. Et c'est quand même ça, tout converge vers ça. En même temps, ils les ont organisés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques, mais ça a permis de roder leur organisation, d'être une répétition générale. Et c'est vrai que ça augure un petit peu ce que sera la Coupe du Monde 2022. C'est-à-dire une Coupe du Monde, j'allais dire, microscopique, hein, avec 8 stades. Les gens seront confinés. Hein, encore une fois, les supporters seront dans les hôtels ou sur des bateaux de croisière où ils pourront boire de l'alcool. Il y aura des fan zones alcoolisées. Ça sera pas une Coupe du Monde populaire comme au Brésil ou en Russie, hein. Donc, mais en même temps, elle sera regardée par toute la planète.
1,3 milliard de téléspectateurs. Donc, malheureusement, là où ils sont gagnants, c'est que même si on les critique aujourd'hui, dans 2 ans et demi maintenant,
c'est le centre du monde.
Alors, puis Christian Chesneau l'a évoqué aussi à l'instant. Qui veut aujourd'hui, on l'a bien vu au moment de l'attribution des Jeux Olympiques, qui veut organiser des Jeux Olympiques? Qui veut organiser des championnats du monde? Combien ça coûte? Qui aujourd'hui, dans le monde, a les moyens d'offrir une compétition de cette ampleur-là?
Il y a beaucoup de questions qui se posent quand, justement, aujourd'hui, on réfléchit à ces attributions. À la fois, le coût économique, combien ça coûte? Et on sait qu'aujourd'hui, avec Paris 2024, les Parisiens et les Franciliens, même les Français...
Les opinions publiques n'en veulent plus.
Exactement, commencent à se poser des questions. On parle de 6,8 milliards, mais avec un taux de dépassement moyen depuis 68 de 162%, bah forcément les Parisiens se posent la question. Donc question financière, question économique, question environnementale, le coût environnemental d'une telle compétition, et même aussi dans l'avenir, où est-ce qu'on pourra les jouer? Parce que si on parle justement pendant l'été de canicules assez récurrentes de 40-45 degrés dans les pays européens, américains, sud-américains ou même du Moyen-Orient, forcément se posera la question du calendrier. Donc question environnementale, question économique, question financière, question populaire. Donc à tous les niveaux, c'est très compliqué. Même au niveau de la médiatisation, le fait qu'un pays accueille une compétition comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde fait que le monde aura les yeux rivés sur cette nation et on posera des questions sur sa politique, sur sa diplomatie, sur le respect des droits de l'homme, des droits du travailleur. Donc il y a aussi des pays, je pense notamment à la Chine, qui souhaiteraient organiser la Coupe du Monde 2030 en football, se posent des questions sur justement cette légitimité ou cette crédibilité à continuer à vouloir organiser des compétitions.
Pour l'instant, les grandes organisations sportives, donc que ce soit la FIFA, le CIO et autres, peu importe, s'occupent de la mise aux normes au fond des installations. Est-ce qu'il serait souhaitable, est-ce que c'est possible, Pierre Rondeau, d'ajouter d'autres critères? Notamment, je pense à la construction des stades, par exemple, et à la manière dont les gens qui construisent les stades sont traités au Qatar. Est-ce qu'il y a moyen d'introduire désormais dans le choix des villes des critères qui ressembleraient à ça, et pourquoi pas un critère écolo aussi?
Mais bien sûr, mais il faudrait, au-delà de se poser la question, il faudrait véritablement l'imposer. Il faudrait dire que dorénavant, si un pays ou une ville souhaite obtenir l'organisation d'une grande compétition sportive internationale, elle doit respecter à la fois un cadre économique, un cadre social et sociétal vis-à-vis du respect des droits des travailleurs, et aussi un cadre environnemental. Dorénavant, c'est une obligation parce que même aujourd'hui, le peuple souverain ne veut pas ces organisations, la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Les Parisiens, aujourd'hui, on leur pose la question, la majorité ne veut plus de Paris 2024. Donc, bien évidemment, se pose la question de la pérennité et de la respectabilité de ces compétitions, face au choc environnemental, mais aussi face au choc économique.
Est-ce que, on a déjà vu ça, parce qu'au fond, les derniers qu'on écoute, ce sont les sportifs. Les derniers à qui on demande leur avis, ce sont les sportifs. Est-ce qu'il peut y avoir, au fond, une sorte de fronde qui viendrait de là? Enfin, les images, notamment, du marathon féminin, où il y a eu 28 abandons qui ont été absolument désastreuses. Est-ce qu'on se dit pas quand même à un moment que la vie du sportif finira par trancher aussi dans ce genre de choix?
Bien sûr. Bien sûr, les sportifs et les sportives doivent se poser la question. Le souci majeur, et je reprends pour l'exemple des championnats du monde d'athlétisme, c'est que c'est leur seule fenêtre de médias de visibilité. Ce sont les championnats du monde. Au-delà, ils n'ont pas, justement, comme en football, des matchs toutes les semaines, des compétitions toutes les semaines rémunératrices. Donc là, le seul moyen, comme les sportifs de niveau pour les Jeux Olympiques, le seul moment où ils sont visibles médiatiquement pour leurs sponsors et pour leur rémunération, ce sont les JO ou les championnats du monde. Donc s'ils venaient à boycotter ou à interdire ces compétitions-là, ils prendraient un risque pour eux-mêmes, pour leur santé financière. Et c'est dommageable.
Et en tout cas, non seulement on n'y est pas, mais à terme, va-t-il se passer quelque chose au Qatar pour qu'il n'y ait plus d'organisation de compétition de ce genre? La réponse est non.
Non. Là, soyez-en sûrs, le mondial aura lieu. On parle de boycott,
Et même au-delà,
voilà, bien sûr.
Le chemin sportif du Qatar.
On parle de la Chine pour la Coupe du Monde de football, on parle déjà, voilà, mais on continuera à organiser des compétitions dans des pays qui accepteront justement ces compétitions, donc pas forcément les plus grandes démocraties.
Voilà, j'allais dire vive la clim, ce qui n'est pas du tout politiquement correct non plus par les temps qui courent. Merci beaucoup Pierre Rondeau, merci de votre passage, merci Christian Chenouf. Il est 18h32.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde et ça se passe en Autriche qui, au-delà de la coalition à former, s'interroge sur ce qu'est être autrichien. Le bruit du monde, la suite, Amélie Perrier, joyeux anniversaire, Vladimir Poutine. Alors.
Exactement, 67 ans, fini les combats à main nue contre des ours, il va accueillir des champignons maintenant.
Allez, le monde selon Trump, saison 3, Grégory Philips, vous vous êtes glissé dans la tête de Trump, Grégory, vous étiez combien?
Oui, pour essayer de comprendre un peu où est-ce qu'il en est dans sa psyché, si je puis dire, alors qu'il est évidemment empêtré dans cette affaire d'impeachment.
Et on y viendra ensemble, évidemment. Le monde à l'envers.
Moi aussi, je vais essayer la psyché de Trump.
Oui, essayez la psyché, Jean-Marc Four. Les États-Unis qui donnent leur feu vert à Erdogan.
Enfin, Trump veut lâcher les Kurdes en Syrie. Immoral, mais logique.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Après, Alizo, Cause I Love You, sur France Inter. Estampillé playlist 2019.
What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even wanna hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, baby, I don't know what I'm gonna do. I'm crying 'cause I love you. Yes, you are. Yeah, 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 yeah. Got me standing in the rain. Get my hair pressed again. I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care.
En Autriche ce soir, qui se cherche un nouveau gouvernement. Le très conservateur Sebastian Kurz a gagné haut la main les législatives il y a 8 jours, vous vous en souvenez, mais il a tout de même besoin d'alliés pour gouverner. Son ancien partenaire d'extrême droite est en crise, notamment à cause de scandales à répétition. Mais pour autant, et au-delà des péripéties politiques, l'extrême droite a-t-elle gagné la bataille des idées en Autriche? C'est quoi être autrichien aujourd'hui? C'est la question que se pose le pays et Louise Baudet a cherché avec eux.
Andreas Gabalier, chanteur de variette en culotte de peau, guitare et amour de la terre natale en bandoulière. Seul capable de remplir des stades de 50 000 places dans une déferlante de rouge et blanc, les couleurs de l'Autriche.
Je ne veux pas laisser de dire que je suis de droite, juste parce que je me balade en culotte de peau et que j'interprète des chansons de ma région d'origine. Si les gens aiment ma musique, c'est simplement parce qu'ils sont attachés à nos belles traditions.
Belle tradition défendue à coups de sous-entendus ambigus sur la pochette de son premier disque, Gabalier prend une pose qui visuellement évoque une croix gammée.
C'est un Autrichien qui soutient sa patrie. Je ne peux être que d'accord avec lui. L'identité autrichienne, elle existe, il faut la défendre.
Grande famille de l'extrême droite autrichienne réunie pour un dernier meeting de campagne sur le Viktor Adler Markt, quartier populaire de Vienne, où les kebabs côtoient désormais les vendeurs de saucisses et où Maria vit et travaille comme concierge.
Il y a suffisamment de pauvres en Autriche et pour eux, il n'y a pas d'argent. Mais tous ceux qui viennent, ces ordures-là, ils ne viennent que pour l'argent qu'on leur donne. Ils ne veulent pas travailler.
La haine anti-migrants, fonds de commerce du FPE, parti fondé par d'anciens nazis dans les années 50, mais qui tente aujourd'hui de se normaliser.
Je m'appelle Ursula Schweiger-Stenzel. Je suis conseillère municipale FPE à Vienne. Ma mère était juive et j'en suis très fière. Nous ne sommes pas un parti néo-nazi, mais l'un des piliers de la République démocratique d'Autriche.
Hier antisémite, aujourd'hui anti-islam, le FPE séduit les électeurs inquiets pour leur identité.
C'est une question essentielle. Écoutez, j'ai deux petites filles que j'aime de tout mon cœur. Eh bien, elles ne trouveront plus d'homme autrichien.
Bonjour. Mais l'homme autrichien est-il autre chose qu'un fantasme dans un pays où un habitant sur cinq est né à l'étranger ou de parents étrangers? Réalité démographique très éloignée des clichés, héritage de l'histoire, celle d'un immense empire au 19e, reconstruit après-guerre par la main-d'œuvre turque, porte d'accès à l'ouest pendant la guerre froide, refuge enfin pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Enis Klementa a quitté la Bosnie à l'âge de 4 ans. Il tient aujourd'hui un steakhouse sur Otakringerstrasse, l'un des repères d'une communauté yougoslave pour partie acquise au FPE.
Ce n'est pas la même immigration. Nous, quand on est arrivé ici, on a fait des efforts pour s'intégrer et on y est parvenu. Mais les nouveaux migrants ont une autre mentalité. Ils n'ont pas la volonté de travailler.
Vivre d'un travail déclaré, c'est pourtant l'objectif du SEN qui pétrit des pains pita à deux rues de là sur le marché coloré de Brunnenmarkt.
Je suis arrivé d'Irak le 27 septembre 2015 et j'ai demandé le statut de réfugié. Mais j'ai eu une première réponse négative. J'ai un lit en dortoir payé par l'État et je reçois 200 euros par mois. Mais je n'ai pas le droit de travailler plus de 2 heures par semaine. Alors évidemment, je travaille bien plus, car personne ne peut vivre avec 300 euros par mois. Je suis bien ici, mais pour la suite, je ne peux pas tomber amoureux, par exemple, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir rester.
Lui aussi est irakien et ne parlait pas un mot d'allemand quand il est arrivé en 2012. Pourtant, Ali Elenbari est aujourd'hui autrichien, un exploit au vu de la loi très restrictive en la matière.
La première clé pour moi, ça a été la langue. Une fois qu'on l'a apprise, tout devient plus simple. Mais le gouvernement précédent a réduit les budgets sur les cours d'intégration. Ils ont fait des économies pile là où il ne fallait pas.
Politique anti-migrants assumée pour rassurer une Autriche déstabilisée. En 2015, 1 million de migrants transitent vers l'Allemagne. 100 000 d'entre eux restent sur place, comme si d'un coup 800 000 étrangers arrivaient sur le sol français. Une certaine Autriche a peur, pendant qu'une autre tend la main.
C'était fantastique, que ce soit à la frontière, dans les gares, dans les hébergements. J'ai vu les Autrichiens d'une autre manière. Je me suis rendu compte que la solidarité existait vraiment, c'était formidable.
Solidarité, toujours 4 ans après, une course caritative est organisée dans un parc de la ville, au stand boisson chaude. Karine, 73 ans, grand sourire et cœur sur la main.
En 2016, j'ai eu la chance de parrainer un réfugié mineur venu d'Afghanistan. Mon jeune homme Daher, on l'a beaucoup soutenu et aujourd'hui il est indépendant. On est tellement fiers. La xénophobie, elle existe en Autriche, on ne peut pas le nier. Mais on est nombreux à nous y opposer de toutes nos forces ici.
Ici, à Vienne, ville cosmopolite, multiculturelle, image parcellaire d'une société fragmentée, tourmentée par son identité. Même si d'autres sujets comme le climat ont émergé et font passer pour quelque temps la question migratoire au second plan.
Louise Baudet pour le reportage en Autriche et pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est par ici. Et ce que nous entendons là, c'est le bruit des émeutes en Équateur. Amélie Perrier, petit état d'Amérique du Sud.
Et depuis presque une semaine, des Équatoriens manifestent, bloquent les routes et affrontent les forces de l'ordre. Ils protestent contre la hausse du prix des carburants. Les tarifs à la pompe ont doublé. Les grèves ont débuté dans le secteur des transports avant de s'étendre à toute la population. Et jeudi dernier, le président Lénine Moreno a réagi avec fermeté.
J'ai instauré l'état d'urgence au niveau national. Le peuple a le droit de porter des revendications à partir du moment où il ne nuit pas aux droits de ceux qui participent au progrès du pays.
Mais l'instauration de l'état d'urgence n'a en rien freiné le mouvement. Les paysans, les étudiants et les opposants politiques ont rejoint les premiers protestataires. En fait, l'Équateur a conclu un accord avec le FMI au printemps dernier pour avoir accès à plus de 4 milliards de dollars de crédit. En échange, les subventions sur le gazole et l'essence ont été supprimées. Aujourd'hui, les prix s'envolent. Et la rue s'enflamme. La présidence a annoncé ce matin la mort d'un homme en marge des manifestations hier soir. La première victime de ce mouvement inédit dans le pays depuis une douzaine d'années. On compte aussi 14 blessés et près de 500 arrestations pour vandalisme principalement. Les populations indigènes s'en mêlent. Les communautés prévoient de marcher dans les prochaines heures sur Quito, la capitale. Elles considèrent que la hausse des prix des carburants est une exploitation abusive des ressources naturelles sur leur territoire. Le président Moreno se dit prêt au dialogue.
Amélie, on parle de droit d'asile et de migration en France, évidemment, aujourd'hui et dans tous les journaux, mais c'est aussi l'actualité en Afrique.
Entre la Tanzanie et le Burundi, environ 600 Burundais réfugiés dans le pays voisin ont été rapatriés ces derniers jours de leur plein gré, affirment les autorités. Sauf que ce n'est pas si clair. Écoutez ces témoignages recueillis par un reporter de la Deutsche Welle en français.
On nous a recensés avant de nous intimer l'ordre de rentrer au Burundi. Nous avons tenté de demander le sort de nos biens sans succès. J'avais une famille et des chèvres.
On avait déjà chassé les autres, ils partaient mais moi je restais. Dernièrement il y a eu une rafle importante, ils m'ont dit de partir. Je me suis échappé et j'ai continué à ramasser du sable pour gagner ma vie. Puis j'ai fini par me faire surprendre. J'ai été obligé de me rendre, j'ai exécuté les ordres qu'on m'a donnés.
En fait, ils sont 180 000 Burundais dans des camps de fortune en Tanzanie, un chiffre du Haut Commissariat aux réfugiés. Ils ont fui leur pays à cause de la crise politique en 2015, qui a dégénéré en violences meurtrières, quand le président Nkurunziza a décidé de se présenter à un troisième mandat, contraire à ce que prévoit la loi. La Cour pénale internationale estime que la répression a fait 1200 morts et plus de 400 000 déplacés. Mais depuis la fin de l'été, la Tanzanie montre des signes d'impatience envers ses réfugiés burundais. Elle considère que la paix est revenue au Burundi et elle a l'intention de rapatrier les réfugiés dans leur pays d'origine. Si les autorités promettent qu'il n'y a pas de retour forcé, que le droit d'asile est respecté, les témoignages disent le contraire donc. Quant à la situation au Burundi, certes, les violences se sont calmées, mais aucune solution n'a été trouvée à la crise politique. Nkurunziza est toujours président, une précarité à laquelle s'ajoute la récession économique du pays, l'insécurité alimentaire extrême et une épidémie de paludisme.
Allez, Amélie, on termine avec un joyeux anniversaire en russe, alors ?
Ouais. C'est joyeux anniversaire en russe. Vous avez reconnu, hein?
Oui, oui.
Car ce 7 octobre est l'anniversaire du président Vladimir Poutine. Le russe a aujourd'hui 67 ans et pour l'occasion, vous l'entendez peut-être derrière moi, ce week-end, il s'est offert une petite balade dans la taïga. La taïga en République de Touva, c'est près de la frontière avec la Mongolie. Alors fini les combats à main nue avec des ours de Sibérie, la pêche au gros ou les vols en deltaplane avec les oiseaux migrateurs. Sur ces images officielles, on voit Poutine avec son chapeau de ranger et ses lunettes de soleil en train de cueillir des champignons, de ramasser des pommes de pin et d'admirer le paysage. Le chef du Kremlin se serait-il assagi ? À 67 ans, c'est peut-être le moment.
Je crois qu'on fait des économies de Photoshop en Russie. En fait, c'est la raison pour laquelle on ne peut plus le voir torse nu, monsieur. Amélie, à demain sous les radars, comme d'habitude. So much trouble in the world, dit Bob Marley. Bah ouais, c'est sûr, dit comme ça. My eyes this morning. much trouble in the world, nous dit Bob Marley. Ben voilà un autre, tiens, qui a des problèmes.
France Inter, un jour dans le monde. That information that was
false and fake. Le Monde selon Trump, saison 3, et donc Grégory Phillips. Grégory, votre président est empêtré dans ce début de procédure d'impeachment, donc on en a déjà longuement parlé ici, on va pas y revenir, mais ce soir vous allez essayer du coup de vous mettre dans la tête de Trump, voir dans quel état d'esprit est ce président américain alors.
Oui, vous savez Fabienne, il y a un thermomètre qu'on commence à bien connaître évidemment pour mesurer l'humeur du président américain, ce sont ses messages sur Twitter. Et bien en ce moment c'est une véritable tempête, on en est à plus de 200 tweets par semaine, ça nous fait une moyenne de 30 par jour, parfois on est même à 40, donc on sent un Donald Trump, si ce n'est furieux, au moins fébrile. Et puis la radio publique NPR a noté que depuis le début de cette affaire ukrainienne, eh bien le nombre d'insultes, d'injures proférées par le président américain avait augmenté aussi de manière exponentielle sur Twitter. Le sénateur de l'Utah, Mitt Romney, est traité de crétin prétentieux, pompous ass en anglais. Le patron démocrate de la chambre du renseignement, Adam Schiff, est devenu Shifty Schiff, Schiff le sournois. Dans ses messages, Trump appelle à la destitution de Pelosi ou de Romney, ce qui juridiquement n'a pas de sens. Et puis le site d'information politique révèle que lors d'un entretien vendredi avec une poignée d'élus républicains, Trump a expliqué qu'il s'inquiétait de la trace qu'il laisserait dans les livres d'histoire s'il devenait le troisième président des États-Unis à être sous le coup d'une procédure d'impeachment. Vous voyez, quelqu'un de pas très serein donc en ce moment.
Donc vous nous décrivez effectivement, Grégory, un président assez fébrile, mais est-ce qu'il a vraiment des raisons de l'être ou pas?
Bah oui et non en fait. L'impeachment à la Chambre, on y va quasi assurément, mais au Sénat, c'est une toute autre histoire. On le dit, on le répète, mais pour que le Sénat américain vote la destitution de Donald Trump, il faudrait que 20 sénateurs républicains le lâchent. On en est très très loin pour l'instant. Pour l'instant, ils sont 3 à l'avoir critiqué publiquement pour ce coup de téléphone passé à l'Ukrainien Zelensky et c'est tout. Les autres se taisent ou bien restent soudés derrière le président. Et puis la cote de popularité de Trump ne bouge pas. On est toujours sur 42-43% d'opinion favorable, un peu comme si rien ne l'atteignait en fait. Et chez les Républicains, dans les derniers sondages, ils sont encore 87% à le soutenir malgré les soubresauts de cette affaire ukrainienne.
Donc le prochain rendez-vous pour lui, pour Donald Trump?
Bon, alors là en ce moment il est très occupé avec cette histoire de retraite Syrie, vous l'avez suivi évidemment, ouais. Mais le prochain grand rendez-vous de politique intérieure c'est jeudi soir, Minneapolis, dans le Minnesota, grand meeting Trump 2020 et premier rendez-vous avec ses supporters depuis l'ouverture de cette enquête en vue d'une mise en accusation.
Voilà, ce qui nous donnera l'occasion d'y revenir et on le fera ensemble, Grégory. Du côté des candidats à l'investiture démocrate, on a l'impression qu'il y a deux camps en fait, ceux qui sont à fond derrière l'impeachment et ceux qui sont beaucoup plus prudents. On en est où ce soir dans cette course à l'investiture?
Alors, j'imagine que vous avez suivi les pépins de santé de Bernie Sanders en fin de semaine, hospitalisé 2 jours à Las Vegas après un incident cardiaque. Sanders, 78 ans, dit qu'il va reprendre la campagne, mais évidemment, c'est pas très bon signe. Et puis, en vérité, Fabienne, on voit pas trop bien comment il pourrait tenir le rythme d'une élection américaine. Biden aussi a du souci à se faire. Et ça, on le mesure au lever de fonds. Au troisième trimestre, l'ancien vice-président d'Obama n'a récolté que 15 millions de dollars. 15 millions, c'est pas mal, mais ça le place derrière Sanders, derrière Warren et même derrière le petit maire de South Bend, Buttigieg, vous savez, qui était un inconnu il y a encore quelques mois. Et puis à titre de comparaison, c'est 3 fois moins que ce que les équipes de Trump ont récolté sur la même période. Elles ont récolté 45 millions. Donc Biden, même s'il est encore en tête des sondages, a intérêt à passer à la vitesse supérieure et c'est sans doute pour ça qu'il publie ce matin une longue tribune à lire dans le Washington Post intitulée « Trump ne parviendra pas à m'abattre ».
Allez, Grégory, puisqu'il nous reste une petite trentaine de secondes, à part Bruce Springsteen, bien sûr, dites-nous ce que vous écoutez en ce moment.
Alors, c'est vraiment pour s'amuser, mais j'ai trouvé par hasard sur Spotify une playlist spéciale Impeachment, qui colle pas mal à l'époque, vous allez me dire. Et les titres m'ont fait rire. Alors, il y a White Houses de Vanessa Carlton. Bon, on comprend pourquoi. People Have the Power, évidemment, Patti Smith. J'ai bien aimé le titre Do Me a Favor des Arctic Monkeys, allusion au coup de fil avec l'Ukrainien. The Fool on the Hill des Beatles, parce que vous savez, à Washington, The Hill, c'est la colline où se trouve le Capitole.
Où se trouve le fool, vous voulez dire?
Et puis ce titre de Queen, je trouve ça assez drôle qu'on pourrait traduire ainsi, encore un qui mord la poussière. Another one bites the dust.
Alors en même temps aux États-Unis, il faut toujours se méfier de celui qui mordra la poussière et pas vendre la peau de la poussière. Bref, vous voyez ce que je veux dire, Grégory. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
monde à l'envers est Jean-Marc Four. Jean-Marc, Donald Trump a donc décidé la nuit dernière de retirer les troupes américaines de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Ça laisse le champ libre à une offensive turque contre les Kurdes qui occupent la zone. Sébastien Paour va y revenir évidemment dans le journal dans un instant. Cette décision peut sembler inique vu le rôle qu'ont joué les Kurdes dans la lutte contre l'État islamique. Mais vous y voyez une décision plutôt logique. Et c'est votre monde à l'envers.
Alors c'est vrai que dans le genre immoral, on fait difficilement pire. On parle bien de ces Kurdes qui ont fait le sale boulot, rappelons-le, à la place des Occidentaux, en allant combattre rue par rue les djihadistes du groupe État islamique jusqu'à Raqqa, puis jusqu'à Baghouz. Et voilà que Trump les lâche en race campagne en engageant le retrait du millier de soldats américains qui les accompagnaient. La Maison-Blanche s'est même payé le culot la nuit dernière dans un communiqué d'annoncer l'offensive imminente de la Turquie contre les Kurdes, ennemi juré du président turc Erdogan. Question cynisme, ça se pose là. Mais bon, si les relations internationales étaient guidées par la morale, d'abord ça se saurait, et puis surtout, en effet, c'était logique et prévisible. Première raison, Trump, contre vents et marées, veut retirer les troupes américaines de tous les théâtres d'intervention, on l'a dit souvent ici, c'est pour lui une promesse électorale. En l'occurrence, dans le cas syrien, il a déjà essayé l'an dernier, il avait été arrêté par son administration, il remet le couvert, même si à nouveau, ce soir, le Pentagone essaie de le freiner, et même le contredit en partie, là aussi ça chauffe à Washington. Deuxième raison, tout aussi logique, le poids d'Erdogan. Les Occidentaux ont besoin de la Turquie en termes de défense d'abord, ça reste un pivot de l'OTAN. Trump veut la ramener au bercail après cette tension provoquée, vous savez, par l'achat par Erdogan de systèmes antimissiles russes. En termes économiques, c'est un débouché majeur pour les entreprises européennes. Et puis, il y a ce fameux dossier des réfugiés, ces réfugiés dont l'Europe ne veut pas. La Turquie en compte 4 millions sur son sol. Et l'un de ses objectifs, en attaquant les Kurdes, ce serait justement de créer une zone tampon en Syrie pour y renvoyer 1 à 2 millions de Syriens chez eux. Bah, vu d'Europe, c'est moins pire que de les voir arriver chez nous.
Alors, sauf que dans tout ça, ce sont les Kurdes qui payent donc les pots cassés.
Oui, les Kurdes parlent même, après cette décision du président américain, de coup de poignard dans le dos. Et pour cause, les forces kurdes risquent de se retrouver en fait prises en étau entre une offensive turque au nord et la présence de l'armée syrienne fidèle à Assad au sud. Mais là encore, c'est sans surprise. C'est en quelque sorte la troisième raison. Les Kurdes sont trop petits. C'est pour ça qu'une nouvelle fois dans l'histoire, ils peuvent devenir les dindons de la farce, une sorte de variable d'ajustement des conflits. C'est la politique, pardonnez-moi l'image, hein, du mouchoir jetable. Les Kurdes, ce sont 30 à 40 millions de personnes réparties sur 4 pays, sans compter la diaspora. Et des mouvements désunis, par exemple, les Kurdes syriens ne s'entendent pas vraiment avec les Kurdes irakiens. Pas de véritable État, donc une légitimité faible sur l'échiquier international. Sans compter qu'aucune grande puissance n'a véritablement envie d'ouvrir la boîte de Pandore d'une modification des frontières au Proche et au Moyen-Orient. Et puis les Kurdes ont sans doute commis une erreur tactique en s'alliant aux Américains. Ce ne sont pas leurs partenaires traditionnels. Les Kurdes, quelque part, ont plus de liens historiques avec la Russie. Donc cette alliance était une sorte d'anomalie et le piège tend à se refermer. Quant aux Européens, sur le dossier kurde, ils sont très talentueux en parole, beaucoup moins en actes.
Donc les Kurdes sont piégés, hein, c'est le mot, c'est cynique, mais c'est comme ça. Et l'histoire se termine là, point final ?
Non, parce que c'est là où ça se complique. Déjà, à court terme, une offensive turque pourrait être sanglante. Hein, dans cette zone de Kobané, de Tal Abyad, en face, les Kurdes comptent quand même environ 60 000 hommes. Et surtout, les conséquences en chaîne pourraient être incalculables. Énumérons comme ça les principaux risques. Vous allez voir, l'inventaire vaut son pesant. 1. Une résurgence du groupe État islamique. On songe en particulier aux 70 000 personnes, dont 10 000 combattants djihadistes retenus dans le camp d'Al-Hol, contrôlé par les Kurdes. 2. Un feu vert indirect donné au Syrien Assad, au sud, pour qu'il attaque le dernier bastion de l'opposition démocratique syrienne, Idlib, avec un possible carnage à la clé. 3. Un renforcement de l'influence de l'Iran et de la Russie, potentiellement perçus comme les seuls facteurs de stabilité dans la région. Et on pourrait ajouter, enfin, pour faire bonne mesure, 4. Une déstabilisation du Kurdistan irakien, où les Kurdes syriens seraient tentés de se réfugier. Et 5. Un accroissement de la tentation terroriste chez des Kurdes qui pourraient se sentir abandonnés de tous. Vous savez, il existe un vieux proverbe que connaissent tous les Kurdes. Nos seuls amis sont les montagnes.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. À demain. Nous, on reste ensemble pour Le téléphone sonne juste avant. Il y a le journal de Sébastien Paour. Ne bougez pas.